VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a refusé toute notion de conflit interethnique et promis la confiscation des armes illicites dans le centre du pays, ensanglanté par les violences entre communautés lors d'un déplacement dans un village de Gon, frappé par une tuerie. Depuis l'apparition en 2015 dans cette région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les peuples, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan a reconnu pour la première fois jeudi avoir ordonné la dispersion d'un sit-in de manifestants début juin devant le QG de l'armée à Khartoum, qui a fait des dizaines de morts. Le conseil militaire au pouvoir a donné une conférence de presse hier à Khartoum, au moment où des émissaires américains et africains se trouvent dans la capitale soudanaise pour tenter de trouver une solution à la crise entre les militaires et le mouvement de contestation. Notre correspondante sur place, Patricia Huon.
Le conseil militaire de transition a reconnu avoir ordonné la dispersion d'une partie du sit-in le 3 juin, car selon les militaires, des activités illégales s'y déroulaient. Le CMT nie cependant avoir ordonné le massacre qui a été commis et a entraîné la mort de plus d'une centaine de personnes. Il admet que des erreurs ont été commises et a déclaré que les résultats d'une enquête interne seront publiés samedi. Le conseil militaire a aussi affirmé qu'il y avait eu 2 tentatives de coup d'État et que la coupure du réseau Internet était nécessaire pour la sécurité du pays. Il a présenté la coalition d'opposition comme divisée et arrogante, et bien qu'il se dise prêt à reprendre les discussions, il affirme aussi douter que celle-ci puisse aboutir. Peu de signes de compromis donc du côté des militaires, alors que les représentants de la société civile continuent de demander que leurs conditions soient remplies avant d'accepter de reprendre les négociations. Parmi celles-ci, le rétablissement d'Internet, la démilitarisation des rues de Khartoum et la reconnaissance par le conseil militaire de sa responsabilité dans le massacre du 3 juin. Patricia Huon, Khartoum, VOA Afrique.
Merci Patricia. Un nouveau front de violence est rallumé en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, où au moins 50 personnes ont péri depuis lundi dans des tueries d'origine incertaine. Ces violences qui ont commencé vendredi et se sont amplifiées à partir de lundi touchent le territoire de Djougou, au nord du chef-lieu Bounia. Elles renvoient au conflit entre les communautés Emma et Lindou, qui avaient fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003. Dans cette province riche en or, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud, le conflit avait pris fin avec l'intervention d'une force européenne nommée Artemis, sous commandement français. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, décide aujourd'hui s'il faut déclarer l'urgence mondiale après que l'épidémie d'Ebola a gagné l'Ouganda, près de 10 mois après s'être déclarée en République démocratique du Congo voisine. La réunion de ce vendredi du comité d'urgence sur l'actuelle épidémie d'Ebola sera suivie en fin de journée d'une conférence de presse. Le Bénin n'en avait pas eu depuis plus de 60 ans. Le petit pays d'Afrique de l'Ouest dispose désormais d'une nouvelle carte détaillée de son territoire qui pourra l'aider à protéger ses forêts et ses côtes, développer son tourisme et ses infrastructures. Pendant plus de 2 ans, 2 avions ont donc quadrillé le ciel béninois pour prendre des photos haute résolution. Une 30aine de cartographes ont numérisé les données. Chaque cours d'eau, chaque route, chaque maison. La dernière carte complète du Bénin remontait à 1957 à une échelle beaucoup moins précise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors de l'Afrique, près de 2000 personnes ont manifesté hier dans le centre-ville de Port-au-Prince, en Haïti, pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, qui a assuré la veille qu'il n'était pas impliqué dans la corruption. Les abords du palais présidentiel étant tacitement interdits à toute manifestation, les organisateurs du rassemblement de jeudi avaient établi un parcours faisant 7 fois le tour de l'édifice par les rues adjacentes. La Cour supérieure des comptes a rendu le 31 mai un rapport de plus de 600 pages sur la mauvaise gestion de l'aide reçue du Venezuela par Haïti, rapport dans lequel Jovenel Moïse est accusé d'être au cœur d'un stratagème de détournement des deniers publics. Ici, aux États-Unis, l'opposition démocrate s'est dite indignée par les propos du président Donald Trump, disant qu'il ne refuserait pas des informations fournies par un pays étranger visant à nuire à son opposant lors de l'élection présidentielle de 2020. Pour Donald Trump, il n'y a rien de mal à recevoir des informations de l'étranger sur un adversaire politique. Les démocrates ont vivement réagi. Idrissa Seydou Dia.
Ici à Washington, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a condamné le président républicain Donald Trump pour avoir dit dans une interview à ABC qu'il serait prêt à accorder, à accepter des informations compromettantes de puissances étrangères sur son ou sa rivale pendant la présidentielle de 2020. De tels propos devraient indigner tout le monde dans ce pays, a dit Mme Pelosi. Et M. Trump a lui-même cherché à clarifier ses remarques hier en écrivant dans un tweet qu'il parlait tous les jours à des gouvernements étrangers. Devrais-je immédiatement appeler les FBI pour leur rendre compte de ses appels et de ses rencontres, a-t-il ironisé. C'est ridicule. Le président américain a également accusé ce qu'il a encore appelé les fake médias de rarement mettre en avant dans leur intégralité ses réponses. Côté républicain, très peu d'élus ont accepté de commenter publiquement.
Le président iranien Hassan Rouhani a accusé aujourd'hui les États-Unis d'être une grave menace à la stabilité régionale et mondiale après les accusations américaines sur les attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman. Cette déclaration intervient peu après que les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable des attaques ayant visé jeudi deux pétroliers en mer d'Oman. Les accusations ont été rejetées comme sans fondement par le ministère iranien des Affaires étrangères. La décision du président Donald Trump d'engager un bras de fer avec la Chine sur le déficit de la balance commerciale bénéficie du soutien unanime du Congrès. Cependant, des aspects de son approche suscitent le doute et la résistance chez certains législateurs. Le reportage de Michael Brownman, présenté par Lionel Gaimard.
La Chine était l'un des soucis majeurs du président Trump quand il s'était adressé aux deux chambres du Congrès en février 2017.
And we've lost 60,000 factories since China.
Nous avons perdu 600 000 manufactures depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce.
Tout comme lors de ses récents meetings politiques.
So I just announced we'll increase tariffs on China.
Si donc j'ai annoncé que nous augmenterons les droits de douane sur les produits chinois. Et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que la Chine cesse de tricher et de voler nos emplois.
Les précédentes administrations américaines avaient, elles aussi, décrié les pratiques commerciales chinoises. Cependant, le président Trump est le premier leader américain à prendre des mesures de retorsion, ce qui lui vaut des applaudissements des législateurs, comme le sénateur républicain James Rich.
We won't stand for our ideas and technologies being stolen.
Si nous ne nous défendons pas contre le vol de nos idées et de nos technologies, nous ne pourrons pas empêcher que nos concitoyens perdent leur emploi et fassent les frais d'une compétition déloyale.
Un avis que partage Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
Nous devons faire quelque chose concernant la Chine, sinon l'Amérique ne sera plus une puissance économique forte d'ici 10 ou 15 ans.
Pourtant, certains républicains s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale, dont la sénatrice républicaine Joni Ernst.
Un emploi sur cinq dans l'État de l'Iowa dépend directement du commerce.
Ériger de nouvelles barrières commerciales avec des droits de douane et des quotas ne constitue pas une solution à long terme, d'après le sénateur républicain Chuck Grassley. Les querelles tarifaires avec le Canada, le Mexique, l'Europe et le Japon ont affaibli la position américaine dans les négociations avec la Chine, estime de son côté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président Trump entend malgré tout poursuivre sa stratégie, car selon lui, c'est un excellent outil de négociation et génératrice de revenus.
L'extrémiste australien Breton Tarrant, inculpé pour le meurtre de 51 fidèles en mars dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, a suscité ce vendredi la colère des victimes en apparaissant le sourire aux lèvres à l'audience alors que ses avocats plaidait non coupable en son nom. Il a été inculpé de 51 chefs de meurtre, de 40 chefs de tentative de meurtre et d'un chef d'acte terroriste. Son procès débutera en mai 2020, a annoncé aujourd'hui le juge. Et puis, du basketball pour terminer, Toronto a fait une entrée remarquée dans l'histoire de la NBA ce jeudi. Les Raptors sont devenus la première équipe non américaine à remporter le titre le plus convoité du basket en faisant tomber dans sa salle l'ogre Golden State de Californie, 114 à 110. Le trophée Larry O'Brien va donc rejoindre pour la première fois le Canada, le pays où est né l'inventeur du basket, James Naismith. Ce retour aux sources est le résultat d'une incroyable et improbable saison de Toronto, qui, 24 ans après son apparition à NBA, s'est offert donc son premier titre. Félicitations aux Raptors. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.